Vous écoutez On lit pour vous.
Fierté des entreprises LGBTQ+ au Québec. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue. La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada, CGLCC, procédait à la fin du mois de février à l'annonce du deuxième cycle du Fonds pour l'écosystème, en collaboration avec la Chambre de commerce LGBT du Québec, CCLGBTQ. Richie Valdez, la ministre fédérale de la petite entreprise, ainsi que Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, y assistaient. Un montant de 2,8 millions a ainsi été alloué à 12 organismes sans but lucratif du milieu des affaires LGBTQ+. On ne les nommera pas ici, ils sont déjà listés sur fugue.com, et ce, avec le concours du ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quels sont les programmes mis de l'avant? Dans le contexte social actuel tendu, quel message souhaite-t-on transmettre aux entrepreneurs LGBTQ+? Tout d'abord, le programme s'appelle « Fierté des entrepreneurs 2ELGBTQI+ du Québec ». C'est la toute première fois qu'on reçoit pareille somme de n'importe quel palier de gouvernement, souligne Thierry Arnault, le président de la CCLGBTQ. La conférence du 20 février dernier servait à présenter cette deuxième étape du financement pour le développement des projets en lien avec « Fierté des entrepreneurs 2ELGBTQI+ du Québec ». C'est un programme qui s'étend sur 14 mois jusqu'en mars 2026, indique Thierry Arnault. « C'est toujours les mêmes idées que je défends depuis une quinzaine d'années », note Thierry Arnault. Les entreprises offrent un service ou un produit. Je dis toujours aussi, tu as réussi, tu as développé une expertise malgré le fait que tu es LGBTQ+, et pour changer la société, tu pourrais aider d'autres gens LGBTQ+ à dire qu'ils sont out auprès de leur clientèle et de leurs fournisseurs. Le message ici est que, à travers les activités, parce que je n'ai pas hésité à dire que je suis gay, lesbienne, etc., on peut réussir dans la vie, on peut faire du réseautage, on peut en parler, on peut faire profiter les autres de notre expérience. La Chambre propose ainsi 6 activités en tout. D'abord, la création d'un site web sur l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+. À même le site web de la Chambre, une section sera développée afin de mettre en valeur des histoires à succès, des histoires de création d'entreprises et des parcours de créateurs et de créatrices d'entreprises par des entrepreneurs 2ELGBTQI+. On y retrouvera également 10 vidéos, entrevues et 20 feuillets, biographies, mettant en valeur la clientèle d'affaires 2ELGBTQI+. Le tournage des vidéos a déjà commencé. 4 vidéos sont déjà en préparation et seront disponibles à la fin mars. Par la même occasion, on identifiera des personnes ressources 2ELGBTQI+ et des alliés dans les entreprises. Répertoire. Par exemple, les institutions financières ont des succursales identifiées aux couleurs de la communauté 2ELGBTQI+, et on y retrouve des employés LGBTQ-friendly. Donc, on sait ici qu'on peut rencontrer des personnes ressources de nos réalités, que ce sont des personnes ouvertes qui comprennent les besoins des gens LGBTQ+, indique Thierry Arnault. Comme deuxième activité, on propose la mise sur pied d'un service de mentorat. Ce service permettra aux participants, participantes, de développer leurs capacités entrepreneuriales. Ce projet de mentorat est en collaboration avec la Fondation de l'entrepreneurship, Réseau Mentorat, et contribuera à former à la fois les mentors et les mentorés. L'objectif ici est de jumeler 10 entrepreneurs mentorés avec des mentors pour la durée du projet. Ensuite, on met de l'avant aussi une cellule de co-développement des arts, activité de perfectionnement des compétences des entrepreneurs. en vue de créer un espace sécuritaire, Safe Space, où les entrepreneurs 2ELGBTQI+ pourront échanger librement et sans jugement sur des préoccupations communes et sur leur réalité d'entrepreneur. On embauchera un animateur en co-développement pour l'occasion. On désire améliorer la capacité des entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise avec pour objectif d'aider 8 entreprises, entrepreneurs aidés, pour la durée du projet. Conférences, panels, soirées de réseautage et activités de développement de capacités entrepreneuriales à travers le Québec. Oui, il y a Montréal, mais on désire aussi aller vers les entrepreneurs ailleurs, soit à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, etc. Toujours avec des thématiques 2ELGBTQI+, il s'agit de reprendre la formule à succès des 6 à 8 de la Chambre, mais ici avec l'ajout d'une conférence-entrevue de 15 à 20 minutes, suivie d'une courte période de questions et d'un cocktail de réseautage avec échange libre entre les panélistes et les participants-participantes. À travers le réseau de la Fédération des chambres de commerce du Québec, on se déplace dans une ville, on y présente une telle soirée pour permettre la visibilité de l'entrepreneuriat LGBTQ+, souligne Thierry Arnault. C'est d'aider aussi les entrepreneurs LGBTQ+, les rassembler et venir les appuyer. Il y aura aussi l'organisation de déjeuners et ou lunch avec un expert ou une experte de la communauté 2ELGBTQI+, probablement dans un hôtel proche du village, pour permettre à un expert, une experte dans son domaine, de répondre aux questions d'un petit groupe de 6 à 8 personnes, pendant que les autres invités profiteront aussi des réponses données aux participants-participantes. Il pourrait y avoir une thématique par déjeuner, comme par exemple le marketing web, comment le développer, comment être plus efficace, etc. Les gens vont aussi échanger sur les bonnes pratiques. Cela est basé sur notre expérience acquise dans le passé avec les divers événements de la Chambre, explique le président de la Chambre de commerce LGBT du Québec, CCLGBTQ. On pense organiser au moins 3 déjeuners au cours de la durée de ce projet. Donc, il faut rester à l'affût. La dernière activité consiste à accueillir une mission commerciale 2ELGBTQI+, provenant de l'Ouest canadien, soit le Comité franco-queer de l'Ouest. On veut renforcer les liens entre les communautés d'affaires 2ELGBTQI+ francophones. Cela inclura une rencontre avec la directrice générale de la Société de développement commercial, SDC, du village, peut-être aussi une visite du village dans le but de faire découvrir le développement économique du secteur et ses diverses entreprises, etc. Par cette activité, le but est d'inciter d'autres groupes à organiser des missions commerciales de développement des affaires à Montréal. En plus de tout cela, il y aura des volets spécifiques rattachés à la gouvernance de la Chambre de commerce LGBT du Québec. Le message que l'on veut passer surtout ici, c'est un peu dans l'esprit de Nelson Mandela, qu'en étant authentique avec soi-même et avec les autres, vous ne vous ferez peut-être pas beaucoup d'amis, mais vous en gagnerez quelques-uns authentiques, évoque Thierry Arnault. Autrement dit, soyez vous-même, soyez authentique, soyez ouvert, ouverte aux réalités 2ELGBTQI+, montrez vos capacités entrepreneuriales aux autres personnes LGBTQ+. Soyez des alliés des entreprises 2ELGBTQI+. C'est ce que ce programme désire accomplir jusqu'en 2026. C'était « Fierté des entreprises LGBTQ+, au Québec », un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Les enfants au milieu des délinquants du volant. Un texte de Sébastien Tanguy paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir. La Ville de Québec a dépensé 1 million de dollars en 2024 pour sécuriser les abords de l'école primaire des Berges, située en basse ville, mais des parents qui la fréquentent chaque matin affirment que les nouveaux aménagements ont empiré une situation déjà périlleuse. Voilà 8 heures qui approchent et des enfants affluent des 4 coins du quartier Saint-Roch pour arriver à temps à leur première classe. Les cahiers dans le sac à dos et la bonne humeur, ou, parfois, les signes d'un sommeil trop vite brisé dans le visage, ils accourent, haut comme 3 pommes, jusqu'au dernier obstacle qui les sépare de l'école des berges, la rue du Prince-Édouard et la noria de voitures qu'ils empruntent à l'heure de pointe. Selon ce que Le Devoir a pu observer, le respect du code de la route paraît encore bien aléatoire sur le tronçon fort achalandé situé entre les rues Dupont et de la Couronne. Lors du passage du journal en février 2025, pendant que les enfants arrivaient par vagues jusqu'au trottoir, les automobilistes roulaient bien au-dessus de 30 km/h et plusieurs grillaient allègrement les feux rouges, engageant leurs véhicules de plusieurs tonnes sur le passage que les écoliers s'apprêtaient à traverser. Les brigadiers sauvent des vies et ils en sauveront encore. « Je n'en doute pas une seconde », souligne Annie Mathieu, mère de 2 enfants âgés de 7 et 9 ans. « Tristement, j'ai le sentiment qu'il faudrait qu'il y ait un mort pour que l'administration réalise à quel point c'est dangereux. » C'est pourtant sur ce même tronçon que la Ville de Québec a investi $1 million en 2024 pour assurer aux enfants un chemin plus sécuritaire vers leur école. L'argent a servi à condamner 2 voies de circulation, à élargir les trottoirs et le terre-plein qui séparent les automobiles et l'allée de service réservée aux autobus jaunes, à ajouter des panneaux de vitesse dynamique, à mettre en évidence un feu de circulation et à identifier plus clairement la présence du corridor scolaire. « On est au maximum de ce qu'on pouvait faire », affirmait le maire Bruno Marchand à l'automne 2024, dans la foulée d'un reportage du Journal de Québec qui faisait déjà état, à l'époque, de la délinquance des automobilistes dans le secteur. Son administration fait valoir qu'elle a dépensé plus d'argent devant l'école des berges que sur n'importe quel autre des 116 corridors scolaires sécurisés par la ville depuis 2020. La science, ce qu'elle nous dit, c'est que quand on fait des aménagements comme ça, on réussit à ralentir, en général, les débits, insistait le maire. Ça n'empêche pas quelques échevelés de décider de peser sur le gaz, ce qui est une très mauvaise idée. Les chauffeurs tiennent parfois même un volant d'autobus entre leurs mains. Au croisement de Prince-Édouard et de la Couronne, à 150 mètres de l'école et à un carrefour traversé par des dizaines d'enfants chaque matin, un véhicule articulé du réseau de transport de la capitale a lui aussi grillé le feu rouge sous les yeux du Devoir, pour se retrouver immédiatement coincé dans le trafic qui attendait de l'autre côté. C'est comme une blague. Non seulement l'insécurité demeure, mais plusieurs parents pointent du doigt les aménagements eux-mêmes comme source de nouveaux comportements délinquants. Avant, les enfants marchaient sur le trottoir jusqu'à l'intersection et ils attendaient de traverser avec le brigadier. Maintenant, constate un grand-père rencontré sur place, les trottoirs élargis incitent les enfants à traverser avant le croisement pour attraper la fin du feu piéton. Maintenant qu'il y a 2 voies au lieu de 4, renchérit un autre parent, chaque fois qu'un automobiliste veut tourner à gauche sur la rue du Parvis, ça crée une file de chars immobiles en direction ouest. À l'heure de pointe, l'automobiliste qui veut virer profite de la lumière rouge pour le faire, et souvent, le véhicule qui était stallé derrière lui se dépêche lui aussi de peser sur le gaz pour continuer. Les brigadiers ont appris à attendre un bon 5 secondes avant de laisser les enfants traverser tellement les autos ne le respectent pas, ce feu rouge. Selon Annie Mathieu, une des initiatrices d'une mobilisation populaire née à Québec dans la foulée de la mort tragique de la petite Maria Legankowska à Montréal en décembre 2022, la dangerosité persistante autour de l'école des berges montre les limites de l'approche fondée sur les données préconisées par la ville. Les données disent que ce n'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas de morts ou qu'il n'y a pas suffisamment de blessés, déplore Annie Mathieu. Pourtant, si les fonctionnaires et les politiciens avaient réellement voulu aller au bout de ce qu'ils pouvaient faire, ils nous auraient consultés en amont et ils auraient pris en considération ce que nous et nos enfants vivons tous les jours. En 2024, la ville a aussi plaidé sans succès pour obtenir une autonomie complète en matière de radar du ministère des Transports, avec l'intention d'en installer un près de l'école. La loi 48, adoptée au printemps 2024, n'a pas octroyé ce pouvoir à la ville, et depuis, cette dernière indique qu'il n'y a eu aucun changement dans ses opérations. Sans préciser le nombre de constats d'infraction distribués sur ce tronçon de la rue du Prince-Édouard, la police assure que, depuis le début de l'année 2025, plusieurs opérations de surveillance ont eu lieu aux abords de l'école. Les parents demandent, de leur côté, l'installation de bollards au centre de la chaussée pour que les automobilistes sentent qu'il y a un rétrécissement à l'approche de l'école. La ville refuse, selon Annie Mathieu, pour des questions de déneigement. Les parents veulent aussi des dos d'âne près des endroits traversés par les enfants. La ville a bien dressé quelques seuils de ralentissement devant l'école, mais uniquement dans la voie de desserte réservée aux autobus scolaires et aux parents qui viennent mener leurs enfants. « C'est comme une blague », déplore Madame Mathieu. « Je ne constate aucune amélioration de ces aménagements-là et j'ai toujours aussi peur que mes enfants se fassent frapper. » C'était « Les enfants au milieu des délinquants du volant », un texte de Sébastien Tanguy paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir.
L'affaire Léo Piquette. La fois où un député albertain a osé parler français. Un texte de Marc Poirier, paru le 6 avril 2025 dans l'Express.ca. En anglais, s'il vous plaît, ces mots lancés dans l'Assemblée législative de l'Alberta il y a 38 ans ont soulevé l'indignation à l'échelle du pays. Même le premier ministre de l'époque, Brian Mulroney, s'en était mêlé. Ces paroles étaient adressées au député Léo Piquette, qui avait eu le culot de parler en français. C'était le 7 avril 1987. L'accord du lac Meech, qui a pour but de formellement réintégrer le Québec dans le giron constitutionnel canadien, est à la veille d'être signé. Une nouvelle ère de collaboration entre les deux peuples fondateurs, comme on appelait alors francophones et anglophones, en oubliant les autochtones, s'annonce possible. Ce jour-là, à l'Assemblée législative de l'Alberta, le député néo-démocrate de la circonscription francophone d'Athabasca-Lac-Labiche, Léo Piquette, se lève pour poser une question à la ministre de l'Éducation, Nancy Bedkovsky, au sujet de la place du français dans la refonte de la School Act, ainsi que de l'application de l'article 23 de la Charte des droits et libertés portant sur le droit des minorités linguistiques à l'éducation dans leur langue. Les Franco-Albertains attendent impatiemment depuis 1982, ne lui laissant pas le temps de poursuivre, le président de la Chambre, David Carter, l'interrompt. « Order, honorable member, order, please. » Le président, indiquant qu'il se lève, avec hésitation, rappelle au député Piquette qu'il a eu avec lui une discussion l'année précédente quant à l'usage du français à l'Assemblée et que la permission de le faire lui avait été accordée, mais pas lors des périodes de questions. Et il conclut en français, en anglais, s'il vous plaît. Le français chevillé au corps. Né à Plamondon, le village fondé par des Canadiens français, notamment par son ancêtre Joe Plamondon, Léo Piquette a été élu en 1986, mais il avait derrière lui une longue carrière d'enseignant et de directeur d'école. Il avait la langue française tatouée sur le cœur. Léo Piquette récidive en indiquant au président de la Chambre qu'en prenant la parole dans sa langue maternelle l'année précédente, il avait affirmé son droit de parler français en Chambre. « Je ne crois pas que ce droit a été aboli par votre déclaration, » dit-il en anglais, avant de poursuivre en français. « Les franco-albertains attendent impatiemment depuis... » Le président lui coupe à nouveau la parole. « Order, please! » David Carter avertit le député que s'il ne pose pas ses questions en anglais, il devra renoncer à son droit de parole. Et le président insiste à nouveau, en français, « En anglais, s'il vous plaît. » Il rabrouait, mais au moins, il était poli. Ironiquement, le président a sommé Léo Piquette de parler en anglais en disant quelques mots en français. Léo Piquette persiste et parle. Le francophone albertain a payé le prix de son audace. Dans un court film de Jacques Thivierge sur cette affaire, l'ancien député raconte comment son geste a été reçu. Je savais que c'était peut-être la fin de ma carrière politique parce qu'il y a eu une réaction très négative des politiciens et même de nos francophones. Quand j'ai sorti le soir, j'étais poursuivi par tout le monde. J'avais eu peut-être 40 appels sur mon téléphone de gens qui voulaient me tuer si j'allais sur leur terre, sur leur ferme. Il y en avait qui voulaient que je recule, mais j'ai dit non. Une semaine après l'incident, une pancarte est placée devant l'édifice législatif d'Edmonton, enjoignant le député à retourner au Québec s'il veut parler français. Le président transmet l'affaire à un comité de la Chambre qui statue que l'utilisation du français à l'Assemblée est un privilège qui doit être autorisé au préalable par le président et à condition qu'une traduction soit fournie. Le comité conclut que le député Piquette doit présenter des excuses pour avoir manqué de respect envers le président de l'Assemblée. Le politicien francophone refuse de le faire. Du rejet et des appuis. D'un bout à l'autre du pays, Léo Piquette reçoit des appuis, notamment de la part de certains commentateurs dans des journaux anglophones. Le Globe and Mail dénonce même l'affaire en éditorial. Comme on l'a dit, cette histoire survient alors que le pays tente de se réconcilier avec le Québec, exclu de l'entente constitutionnelle de 1982. Le gouvernement fédéral s'active au même moment pour mener la première grande refonte de la loi sur les langues officielles de 1969. À la Chambre des communes, le député libéral fédéral franco-ontarien Jean-Robert Gauthier, grand défenseur des droits des minorités francophones, interpelle le premier ministre Brian Mulroney sur cette affaire, qualifiant l'incident d'insulte envers tous les francophones du pays. Le député Gauthier lui demande d'intervenir auprès de son homologue albertain. Dans sa réponse, Brian Mulroney souligne que l'accord du lac Meech part du principe selon lequel les gens et les leaders de ce pays feront preuve de générosité et d'ouverture d'esprit en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure linguistique. Il demande aux députés de l'Assemblée législative albertaine de trouver une solution honorable à cette affaire, tout en précisant que les minorités doivent être protégées et respectées. Ce plaidoyer aura finalement peu d'écho en Alberta. Alors dirigé par le conservateur Don Getty, farouchement opposé au bilinguisme législatif. Une reconnaissance momentanée. Quelques mois plus tard, les francophones de l'Alberta et de la Saskatchewan obtiendront néanmoins une reconnaissance momentanée de leurs droits avec le jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Mercure. Le père André Mercure, curé en Saskatchewan, avait contesté devant les tribunaux une contravention reçue pour excès de vitesse qui avait été rédigée en anglais seulement. Son affaire s'est rendue en Cour suprême du Canada, qui a statué en février 1988 que les lois de l'Alberta et de la Saskatchewan étaient invalides parce qu'elles avaient été adoptées uniquement en anglais. La Cour offrait cependant une solution aux deux provinces: adopter une loi bilingue validant toutes les anciennes lois rétroactivement. Ce que se sont empressés de faire les deux provinces. Ironiquement, en officialisant son unilinguisme législatif, l'Alberta a, du même souffle, permis l'usage du français dans son assemblée. Dans un communiqué soulignant la Journée internationale de la francophonie en 2023, l'Assemblée législative de l'Alberta rappelait que le français avait été la première langue européenne parlée dans la province. Pour le président de la Chambre albertaine, Nathan Cooper, la langue française a fait partie intégrante du développement de notre province et demeure aujourd'hui l'une des langues les plus importantes et courantes en Alberta. Des remarques que Léo Piquette n'aurait peut-être jamais cru pouvoir entendre à l'époque où il s'est fait mettre au pas le 7 avril 1987. Après son passage en politique, le franco-albertain est resté très actif au sein des organismes scolaires et économiques. En 2015, son fils Colin s'est fait élire pour le même parti et dans la même région que lui, l'emportant sur un ministre conservateur. Lors de l'élection historique qui a porté le nouveau Parti démocratique au pouvoir après 44 années de règne conservateur en Alberta, Colin Piquette ne s'est pas représenté au scrutin de 2019. C'était l'affaire Léo Piquette, la fois où un député albertain a osé parler français, un texte de Marc Poirier, paru le 6 avril 2025 dans l'Express.ca.